Isabelle Huppert lisait « Tandis qu'elle agonise, Thérèse, mon amour » de Julia Kristeva dans le cadre de Voix de femme, enregistrée en public pour France Culture le 17 mars 2014 sur la scène de l'Odéon, Théâtre de l'Europe. Tout de suite, Voix de femme, deuxième partie, Jean Bienbaume, responsable du Monde des livres, s'entretient en public avec Julia Kristeva.
Bonsoir Julia Kristeva.
Bonsoir.
Ce texte qui est le vôtre, ce monologue... La plus vaste partie, c'était quand même un monologue de Thérèse Davila. C'est un texte issu de ce très beau livre qui s'appelle « Thérèse, mon amour », qui est paru chez Fayard. Donc le dernier chapitre de ce livre était déjà un chapitre très théâtral avec beaucoup d'acteurs, vraiment une scène qui aurait mobilisé 25 comédiens. Et puis finalement, vous avez beaucoup retravaillé, il faut citer des noms de gens qui vous ont accompagné dans ce travail, à commencer par Laure Adler, Katel Guillou, Olivier Py aussi, puis bien sûr Blandine Masson qui réalise toute cette émission. Et donc c'est un texte qui a une histoire. C'est le seul qui a été lu d'ailleurs au cours de ces soirées Voix de femmes, qui était vraiment destiné à être lu et proclamé. Et donc je voudrais tout simplement vous demander ce que ça vous fait de l'entendre pour la première fois, porté aussi haut et aussi superbement par Isabelle Huppert.
J'étais très émue et très sensible à l'attention que les personnes ici présentes ont accordée avec recueillement et respect, je pense, à ce dépaysement. Je pensais en l'écoutant aux nuits pendant lesquelles, en cohabitant avec Thérèse, j'ai écrit cela, et je me disais qu'il fallait que je sois une Européenne de naissance pour m'enfermer 10 années durant avec une carmélite espagnole mystique, intense et extrême, et qui est devenue sainte de l'Église catholique, apostolique et romaine, parce que je pense que pour ne pas mourir de cynisme politique et de coups boursiers, il nous reste peut-être un remède, c'est d'essayer de réveiller la mémoire de notre continent, cette mémoire dont nous nous sommes écartés, dont nous avons coupé le fil pour ouvrir les chemins de la liberté, qui est une mémoire grecque, juive, chrétienne et maintenant la greffe musulmane, une mémoire dramatique, une mémoire blessante, une mémoire blessée, mais une mémoire résistante et une mémoire renaissante, et qu'il nous revient à nous qui sommes dans cette salle, à notre génération, à ceux qui viennent, ils nous reviennent de la réveiller, d'ouvrir la question Dieu, d'habiter cette mémoire, de l'incorporer, et ainsi seulement de l'évaluer, de la transvaluer, peut-être de l'innover.
Ce qui est intéressant d'ailleurs chez vous, Julia Kristeva, c'est que pour vous, et vous venez de le dire, il y a une puissance symbolique et politique même très forte dans l'héritage religieux. Et vous n'avez pas peur du tout d'affirmer qu'effectivement, comme vous venez de le dire, il faut que l'Europe renoue. Il y a eu toute cette polémique sur les racines chrétiennes de l'Europe. Pour vous, l'Europe doit être même fière de ses racines religieuses. Et là où je voulais en venir, c'est que, à vos yeux, il y a deux voies royales qui permettraient justement de renouer, de raccommoder ce fil de la tradition qui aurait été rompu. La première, c'est la psychanalyse, et l'autre, c'est la littérature.
Thérèse dialogue avec ceux qui l'avaient précédée, des hommes et des femmes. On a réduit ces discutants à Saint-Jean de la Croix et Jérônimo Gracian, et aussi ceux qui vont venir après elle et qui vont parler d'elle, parmi lesquels le frère de Haydn, Leibniz, Edith Stein, etc. Et ce que je crois on a entendu très nettement, c'est comment cette femme qui est une catholique fervente et abandonnée à son amour du divin, un divin humain, comment elle essaye de réfléchir ce qui se passe, d'entrer dans les détails de sa sensation la plus subtile, la plus brûlante, la plus dévastatrice et en même temps la plus revigorante, la plus résurrectionnelle. Et pour faire cela, elle se donne un langage qui est le langage de la fiction. Elle met l'accent ici sur quelque chose qui fait partie de notre culture européenne, qui est une manière de penser qui, nous la connaissons essentiellement, la philosophie ou la science, mais qui est aussi la fiction, ce qu'elle appelle la fiction. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a paru extrêmement important à réhabiliter dans son histoire, c'est-à-dire pratiquée par une sainte baroque, et montrer comment cette manière de penser la foi, à la fois sensoriellement et intellectuellement, a ouvert la voie à la révolution baroque, et à partir de là, aux Lumières. Et on entend, je pense, cette femme se battre avec les moyens que lui donne l'Église, mais aussi avec son propre génie, pour rendre la sensibilité féminine plus complexe dans la souffrance et dans l'exaltation. Et en même temps, avec une précision mathématique, elle cherche les mots, elle essaye de trouver les séries de personnages, d'articulations, d'analyses, elle s'analyse en permanence. Et donc cet héritage que nous laisse l'Europe, je l'avais d'une certaine manière exploré moi-même. Si la vie est un drame, il nous faut, pour l'assumer, essayer de construire une pensée à l'unisson avec le corps sensible, avec la mémoire sensible. Et c'est ce qu'il fait tout au long de ce dialogue. À partir de là, le langage s'ouvre à ce drame et votre langage devient une rencontre permanente entre le sens et le sensible. Les instruments de cette rencontre sont la métaphore et la narration. Et le résultat, c'est la perte de soi, l'annulation de soi et la reconstruction de soi. Alors comment ça s'appelle ? On l'appelle écriture, on peut l'appeler roman. Et je crois qu'on peut prendre le terme de fiction de Thérèse. L'écriture, l'intelligence qu'elle nous développe, est une sorte de dramaturgie du moi qui part du fond du corps particulier. Mon corps particulier qui a écrit tout ça, eh bien, il est celui de l'exil, celui d'être entre deux langues. C'est l'expérience de la maternité, c'est la rencontre de la mort. Et tout ça me fait adhérer à sa recherche à elle.
Effectivement, vous êtes née dans le Bulgare. Votre première demeure, comme vous le dites, était le Bulgare. Et ensuite, à partir de l'âge de 6 ans déjà, vous avez baigné dans le français. Et c'est grâce à des dominicaines que vous avez appris le français. Et quand vous parlez de cette langue, de votre attachement à cette langue française, vous dites d'ailleurs que vous avez ressuscité, vous êtes ressuscité en français et que vous êtes toute prête à croire au mythe de la résurrection quand vous pensez au français. Donc il y a toute cette logique chez vous, un peu comme chez Derrida qui dit toujours « je n'ai qu'une seule langue et ça n'est pas la mienne ». Et justement, je pense qu'en regardant ce texte de Derrida qui s'appelle « Le monolinguisme de l'autre », j'ai pensé à vous quand il dit, à propos de l'écriture, quel est un certain mode d'appropriation aimante et désespérée de la langue, Julia Kristeva?
Aimante sûrement, désespérée non. Je suis la fille d'un père qui priait l'alphabet. Il y a en Bulgarie une fête de la culture, chacun arbore une lettre de l'alphabet, et mon père, qui était très croyant, priait l'alphabet. « As buki vedi glagol dobro est »« Je suis » la lettre qui connaît le verbe, donc le bien existe. Cet homme a été tué dans un hôpital bulgare quelques mois avant la chute du mur de Berlin et on n'a pas voulu l'enterrer parce qu'on donnait les tombes aux communistes pour éviter les attroupements religieux. Donc il a eu une crémation, ce qui n'était pas conforme à ses volontés. J'ai demandé de payer une tombe, on m'a dit « c'est possible, mais il faut que vous mouriez et on mettra votre papa ensemble ». Donc c'est là qu'était arrivé l'humanisme en question. J'ai mis quelques années à faire ce deuil et ça a donné lieu à mon premier roman que j'appelle « Polar métaphysique ». Où il est question d'un homme qui voit la société se transformer en loup. Ça s'appelle « Le vieil homme et le loup ». Donc, c'est une manière, en effet, d'atterrir dans le français à partir d'une histoire où il y a pas mal de douleurs, mais pas vraiment d'espoir, au sens où Thérèse dit que parce qu'elle a beaucoup d'espoir, elle meurt de ne pas mourir, ni même de désolation au sens où le dit Derrida. Pourquoi ? Parce que moi j'ai eu aussi, je pense, la chance de venir en France et d'adopter le français à cause des dominicaines, vous l'avez dit, parce que j'ai suivi leur école maternelle avant qu'elle ne soit convaincue d'espionnage. Après, je suis passée à l'Alliance française, mais aussi à cause du général de Gaulle, qui voyait l'Europe de l'Atlantique et de l'Oural, et je suis venue avec une bourse du gouvernement français pour faire une thèse sur le nouveau roman, donc on est de nouveau dans la fiction, et aussi parce que j'ai rencontré le pape de Saint-Germain, qui m'a accueillie avec sa revue comme on accueille des étrangers et des femmes nulle part ailleurs. Et les premiers textes que j'ai écrits en français concernent nombre et loi de textes de Philippe Solers, où j'ai été bercée par un français saturé de mémoire et de rire, qui a brisé, ou en tout cas a contribué à briser, le français académique, et m'a encouragée à essayer de toucher ce dont on parle, Thérèse, c'est-à-dire un état corporel, une mémoire sensible sans mots, et à laquelle il faut trouver la traduction. Et quand je cherche la traduction de cette langue maternelle, j'ai l'impression d'être comme ces peintres préhistoriques qui posent leurs mains sur la paroi d'une grotte et qui soufflent de la peinture autour, mais qui s'appuient sur cette paroi et sur le temps. C'est la paroi et le temps de la langue française où je me sens revivre, en effet. Et là, contrairement à Thérèse qui dit « je meurs de ne pas mourir », je dis « je me voyage ». Je me voyage en récit, en personnage. J'essaye d'embrasser la pluralité des espaces et des temps. Byzance, la Chine, le XVIIIe siècle, le XVIe siècle, et jusqu'au pape Benoît XVI. Donc rien n'est interdit.
Vous avez fréquenté un nombre de papes dans votre vie incroyable.
Un seul. Bah, mais on peut en parler tout à l'heure, si vous voulez. Oui.
Vous en avez nommé deux déjà, là. Il faut choisir. À un moment donné, il faudra choisir, quand même.
Alors, j'ai déjà assez dit sur l'un, mais je vais vous dire quelque chose
entre
sur l'autre.
Entre deux papes, votre cœur balance.
Je vais aggraver mon cas. J'espère pas dans le monde.
Il y a un troisième caché quelque part.
Non, mais je vais vous dire comment cette joie de me voyager à travers les espaces, les temps et les religions, parce que je pense que le point où nous en sommes dans ces impasses, ne parlons pas des françaises, mais aussi européennes et globalisées, c'est parce que nous n'avons pas compris que le gîte du désir politique, ce sont les mémoires nationales, les mémoires communautaires et les expériences intérieures. Regardez quelles sont les mouvances qui attirent l'adhésion populaire aujourd'hui. C'est les communautés, au-delà des frustrations, c'est l'appartenance à un sentiment national, c'est l'appartenance à une mémoire personnelle. Même si on ne le sait pas, le français, même le plus révolté contre l'Europe, se sent européen et français. Et notre devoir, écrivain, et je reviendrai sur l'analyste tout à l'heure, consiste à nous ancrer dans cette source, dans cette libido du politique que nos politiciens oublient, et d'essayer de l'élucider et de le rendre disponible.
Et de le déplacer aussi, hein, quand vous dites « je me voyage », parce que vous-même, vous soulignez les dangers, ce qu'il peut y avoir d'étouffant et d'angoissant dans ces communautés ou ces politiques, dès lors qu'elles se calfeutrent.
Pas si on les aborde avec le souci de déconstruction et de critique. Plus que Thérèse, je vais appeler une autre génie féminin qui m'a beaucoup intéressée, c'est Colette, qui dit quelque chose d'exorbitant, « Renaître n'a jamais été au-dessus de mes forces ». Quand je revis dans le français, je pense à Colette. Ma religion, ce serait plutôt ça, l'écriture comme l'antidépresseur.
Quand vous avez cité tout à l'heure votre rencontre avec le pape de Saint-Germain-des-Prés, très vite, vous avez reçu un très beau cadeau d'un autre pape qui n'était pas vraiment un pape, mais qui était quand même un grand maître, et qui avait quelque chose de très spirituel, qui était Roland Barthes. Et en 1970, dans la quinzaine littéraire, il vous a fait un cadeau incroyable, dont je me demande s'il pourrait être offert aujourd'hui à quiconque. Il a écrit un texte qui s'appelle L'étrangère. Vous aviez quoi, 29 ans, 28, 29 ans, quelque chose comme ça. Et il fait dans ce texte un éloge formidable, avec beaucoup de tendresse, beaucoup de générosité de votre travail. Et il dit justement que vous êtes capable de déplacer les choses. Hein. Julia Kristeva change la place des choses, elle fait bouger les choses. Et là, on est en plein déjà dans cette question de la littérature et de la pensée. Vous êtes exactement dans la grande tradition de l'essayisme. Et donc, il y a toujours chez vous l'idée que le savoir ne va pas sans le style, que la pensée ne va pas sans la prose. C'est quelque chose de très important qu'on retrouve d'ailleurs effectivement dans le texte sur Thérèse d'Avila qui disait « J'ai fait cette fiction pour donner à comprendre. » Donc la fiction donne à comprendre.
Oui, ce que vous dites là me fait penser à trois choses. En effet, la première partie de mon travail en France a été consacrée précisément à ce métissage, si on peut dire, entre une philosophie ou une pensée conceptuelle d'une part et cette fiction qui nous est léguée par l'histoire dont je viens de parler et qu'on censure parce que ça vient de la Renaissance et avant dans ces textes de femmes qui ont été écrites dans le christianisme, dans le judéo-christianisme et ensuite de suite, mais très particulièrement au XVIIIe siècle, dans le roman de Voltaire, de Diderot, de Rousseau et cette présence de vignettes romanesques, d'expériences personnelles dans la philosophie française, nous avons essayé de la cultiver dans ce qu'on appelle « the French theory », dont je suis un peu le porteur dans les universités américaines et maintenant chinoises. Ça, c'est la première chose que m'inspire votre remarque. La seconde, c'est que le lieu propice de cette vigilance conceptuelle et de cette permanence de la narration, de ce que j'appelais la fiction avec Thérèse, c'est l'expérience analytique. C'est ce que Freud nous a légué. Vous souffrez, vous ne savez pas de quoi, ça va pas bien, racontez-moi. Mais elle a apporté quelque chose de plus révolutionnaire. Elle a fait de chaque analysant un écrivain sans religion esthétique. Chacun raconte son histoire. Moi, je pratique la psychanalyse ainsi. J'essaye d'accompagner les personnes qui me font confiance pour qu'ils deviennent les poètes qui trouvent le langage ou les écrivains, les romanciers, sans prétention, sans religion esthétique, de leur résurrection, de leur recommencement, de retrouver une vie psychique nouvelle. Et le récit est extrêmement important pour ça. Et la troisième association que me donne votre remarque, c'est mon être de passerelle en Europe entre l'Est et l'Ouest, entre la notion philosophique et l'expérience analytique ou romanesque. Je crois qu'il nous faut établir des passerelles entre les différentes religions. Et ces passerelles passent par l'élucidation de leurs récits. Pas seulement des concepts, de leurs dogmes, mais de leur narration. Ce qu'on appelle maintenant en politique, on demande aux politiques de faire des récits, ça tourne assez court, on va au salon d'agriculture, on prend une scooter ou on raconte une chanson, etc. C'est pas assez, c'est le degré zéro du récit.
Le scooter allait au salon de l'agriculture, en fait. Scoop ce soir.
C'est des degrés zéro du narratème. C'est du degré zéro de la narration. Il faut aller plus loin. Et le plus loin, moi, je l'ai trouvé, figurez-vous, chez ces gens du Vatican qui sont très forts. Ils m'ont invité pour présenter, il y a 2 ans, les non-croyants. Donc, en tant que telle, j'étais invitée au Vatican. Et le pape Benoît XVI, qui a pris la parole après moi, a dit « Ces gens-là, notre petite délégation, doivent être dans une grande souffrance parce qu'ils n'ont pas rencontré le vrai Dieu. » Mais puisque ce pape était un grand philosophe aussi, qui avait lu son Saint-Augustin et jusqu'à Nietzsche et Heidegger, il a dit « Oui, mais pour eux, la vérité est une lutte permanente, un combat perpétuel et un chemin. » Et il s'est tourné vers tous les autres, toutes les religions qui étaient là, « Prenez exemple sur eux, parce que personne n'est propriétaire de la vérité. » En rentrant, j'essaie de créé un cercle qui s'appelle Montesquieu pour l'instant, et on essaie de rencontrer toutes les communautés religieuses plus les humanistes en France pour essayer de créer le récit de ce vivre ensemble. Mais on ne peut pas aller plus loin si on ne s'approprie pas l'histoire des religions, pas pour la célébrer, pas pour en faire un culte, mais pour en faire ce que disait Nietzsche, un objet sur lequel on met le plus grand point d'interrogation à l'endroit du plus grand sérieux. Et ce point d'interrogation, j'insiste encore, on l'a entendu dans la manière avec laquelle Isabelle Huppert a lu ce texte, sans certitude, sans dérision, sans foi religieuse, mais avec une proximité, avec une tendresse et avec une participation à la souffrance de cette femme et à son désir de traduction, elle nous a permis de traduire, pour ceux et celles qui ne le pouvaient pas, combien cette sainte baroque est la charnière qui nous manque entre l'histoire judéo-chrétienne de notre continent et les Lumières.
Il y a une phrase qu'on a très bien entendue aussi dans la bouche d'Isabelle Huppert, quand Thérèse d'Avila dit « Je ne suis qu'un nourrisson ». Et en entendant cette phrase, je pensais à tous ces passages où Bernanos, que d'ailleurs vous citez dans votre texte, Bernanos rapproche l'esprit de la sainteté et l'esprit d'enfance. Bernanos dit, j'ai relevé cette formule, que les saints sont des êtres qui ne sont pas sortis de l'enfance, mais qui l'ont peu à peu comme agrandi à la mesure de leur destin.
Merci beaucoup d'avoir cité les Carmélites de Bernanos. Moi, j'étais évidemment très sensible à cela. Et je me suis rendu compte assez vite que là aussi, je suis peut-être dans un carmélitisme ou dans une mystique moins souffrante que voyageuse. Pas enthousiaste, mais d'un pessimisme énergique, je dirais. Pourquoi ? Parce que l'enfance, telle que je la vois chez Thérèse, et peut-être aussi chez mes analysants, c'est une enfance artificielle. C'est une sorte de régression, entre guillemets, que notre autorité, pour moi, maintenant je prends des autorités, si vous permettez, pas seulement dans l'histoire de la littérature, mais dans l'histoire de la psychanalyse, que Winnicott, cette autorité qui s'est occupée beaucoup de l'enfance, appelle des états où la psyché et le soma font un. C'est des formes de régression où vous ne perdez pas le rapport au monde, mais vous êtes tellement renvoyé à votre enfance que vous n'avez pas de mots pour dire les sensations qui vous ont submergé. Alors cet état de psyché-soma n'est pas sans communication, mais c'est une communication sous-marine en quelque sorte, sensorielle. Les écrivains et l'état d'écriture que j'essaye de chercher aussi arrivent à ces états de psyché-soma. Et la littérature de fiction essaye de trouver le langage qui traduit ce psyché-soma pour nous-mêmes. Mais nous les donnons aussi à ceux avec lesquels nous partageons, les patients, pour ce qui est de la psychanalyse, ou les lecteurs. Et de cette manière, on enrichit leur capacité de se connaître. C'est le rôle civilisationnel de ces régressions. Donc c'est une enfance retrouvée et qui est extrêmement fructueuse dans toute expérience, je dirais, esthétique. Moi, je l'ai retrouvée, je parlais tout à l'heure de ma rencontre avec la mort autour de l'histoire de mon père, mais je l'ai rencontrée aussi dans l'expérience de la maternité, qui est un moment capital de la vie de chaque femme qui se laisse aller à cette expérience, qui est un voisinage permanent de joie et de douleur, de vitalité et de mortalité sous-jacente. Et je suis de celle de ceux qui disent qu'un des grands manques de notre civilisation sécularisée, c'est que nous n'avons pas de discours sur la maternité. Nous avons des lois pour tous, mais nous ne savons pas ce que c'est que l'expérience maternelle. Là, on analyse, on joue, avec tous les guillemets, ce rôle aussi, pour essayer d'aller du sensible au nommable, mais c'est assez limité, c'est assez ésotérique. Il nous manque une philosophie de ça. Cette philosophie passe aussi par les récits, par la littérature. Donc, sans les hiérarchiser, littérature et psychanalyse, à traduire l'indicible.
Merci beaucoup, Julia Kristeva.
C'était Voix de femmes. Jean Birnbaum, responsable du monde des livres, s'entretenait avec Julia Kristeva dans le cadre de Voix de femmes, une manifestation coproduite par France Culture avec l'Odéon Théâtre de l'Europe et en partenariat avec le monde des livres, enregistrée en public sur la scène de l'Odéon Théâtre de l'Europe le 17 mars 2014. En première partie, Isabelle Huppert lisait « Tandis qu'elle agonise, Thérèse mon amour » de Julia Kristeva. D'après Thérèse Mon Amour, édition Fayard 2008, adaptation de Julia Kristeva avec la complicité de Laura Adler et la collaboration de Catel Guillou. Le poème de Jean de la Croix est élu par Pablo Aguero. Coordination technique Guillaume Rialan. Prise de son, montage et mixage Benoît Gégou, Clotilde Thomas. Stagiaire à la réalisation Julie Guichard. Assistante à la réalisation Yaël Mandelbaum. Réalisation Blandine Masson. Je remercie tout particulièrement l'Odéon Théâtre de l'Europe, Pascal Bramy, régisseur, Jean-Philippe François, Yann Jourdan, Jean Garcia et puis bien sûr Marilène Boulan et Denis Bretin.